Bonjour à toutes et à tous. Je suis très désolé du retard avec lequel commence cette soirée par ma faute, mais très heureux qu'elle ait lieu. Pour moi, en tant que directeur de cette école, c'est un bonheur tout particulier et un honneur aussi d'accueillir ce moment autour de la revue Esprit, dans le moment d'aujourd'hui aussi. Évidemment, je suis très heureux aussi à d'autres titres, même si c'est aussi à ce titre-là, je tiens à le dire, que je suis heureux de vous accueillir dans cette salle qui d'ailleurs a été choisie en raison du grand nombre de personnes qui se sont inscrites à cet événement par rapport à la salle des résistants qui était initialement prévue. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir aussi en tant que professeur de philosophie ici, de philosophie française contemporaine. J'ai dirigé pendant près de 20 ans un centre qui s'appelle le Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, qui se rebaptise désormais un petit peu, en tout cas sur son site internet, sous l'égide d'Anne Simon, mais aussi de Perrine, qui parlera tout à l'heure, d'Anthony, qui va parler aussi tout à l'heure, toute une équipe qui se rebaptise PhiloFR, sans point, pour marquer à la fois une nouvelle étape et un nouveau développement. Et dans ce cadre, on a beaucoup travaillé sur ce que j'appelle de mon côté les moments philosophiques du XXe siècle en France. Ces grandes étapes marquées par des discontinuités cruciales qui définissent des avant, des après. Et il est clair que l'année dont on va parler ce soir, l'année 1932, constitue une de ces ruptures majeures. Nous allons approfondir, dont je vais me permettre de dire quelques mots après avoir rappelé ces différentes casquettes avec lesquelles je vous accueille ce soir. Je vais me permettre de dire quelques mots d'une hypothèse sur cette année 1932 et sur le troisième terme, finalement, la troisième dimension, au titre de laquelle je suis évidemment très particulièrement heureux de vous accueillir, qui est la dimension de la revue Esprit. Grâce à Olivier, depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis membre du comité de la revue, maintenant du comité d'honneur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un honneur. Et je suis très heureux vraiment de faire le lien entre ces différentes dimensions. Depuis toujours, comme vous, je pense que la fondation de la revue Esprit marque un moment, que Esprit a traversé par ailleurs tous les moments de la philosophie et de l'histoire politique et intellectuelle française, européenne et mondiale. Peut-être même que pour une raison qui tient à l'esprit de sa fondation, si je peux me permettre, et je vais en dire un mot, c'est une des rares revues qui traverse les moments du siècle, qui continue d'accompagner le moment présent. C'est très très rare en fait. Peut-être que c'est même la seule à certains égards. À bien des égards, on peut définir un moment philosophique par la revue qui émerge pour l'incarner. Le moment philosophique 1900, dont je vais dire un mot dans un instant. En philosophie, en tout cas, c'est la revue de métaphysique et de morale, dont je vais dire un petit mot dans un instant. Le moment de l'existentialisme, évidemment, la NRF, mais aussi les temps modernes. La NRF existe toujours, je vous rassure, mais les temps modernes, non. Et le moment des années 60 se caractérise, entre autres, par critique et par tel quel. Et aujourd'hui, c'est très difficile avec la situation médiatique actuelle, qui est un enjeu majeur dont on parle souvent avec Olivier. Et donc Esprit, pour différentes raisons, est, je pense, une des rares revues qui apparaît dans un moment très précis, mais qui traverse tous les moments de l'histoire intellectuelle et politique française et mondiale. Et c'est important de se demander pourquoi on n'est pas seulement en train de fêter les 100 ans ou les 90 ans d'une revue qui aurait disparu, mais aussi de comprendre pourquoi elle continue de rassembler, d'interroger, de partager, et donc de se comprendre ce qui, dans ce moment initial, explique sa fécondité dans tous les moments suivants, y compris dans celui d'aujourd'hui. Pour moi, c'est l'une des principales questions qu'il faut se poser, et je suis vraiment très heureux qu'Anne Lorraine ait proposé, qu'on ait organiser ensemble cette journée. On en parle évidemment depuis plus d'un an, puisque normalement ça aurait dû avoir lieu l'année dernière, de fêter l'année 1932 en 2022 et j'espère en 2032, mais Mais déjà, de la fêter l'an dernier aurait été plus arithmétique, arithmétiquement correcte. Mais en un certain sens, évidemment, l'une des choses qui couve dans l'année 1932, c'est l'année 1933. Et d'une certaine manière, célébrer 1932 en 2023, j'essaye de ne pas me perdre dans mes calculs, ça a un sens parce que ça nous permet de réfléchir aussi sur ce qui s'est passé entre 32 et 33, sur ce que 32 annonçait déjà sur 33. Et on sait que quand on dit 33, on parle de la prise du pouvoir du nazisme en Allemagne, on parle d'un certain 30 janvier 1933, date que je dois citer parce que j'en parlais très souvent avec quelqu'un à qui je voudrais dédier aussi cette soirée, qui est Pierre Hassner. Pierre Hassner, autour de qui on essaye, avec Olivier, avec Véronique, avec Perrine, avec beaucoup d'autres, avec Jacques Rupnik, d'organiser des événements réguliers ici dans cette école, des conférences de géopolitique Pierre Hassner. Pierre Hassner qui a été un pilier de la revue, bien sûr, qui était né le 31 janvier 1933, en Roumanie. Et on parlait souvent avec Pierre de ces dates. Moi-même, je suis né un 30 janvier, donc je lui disais « Non, c'est quand même moi qui porte la cicatrice la plus lourde dans ma date de naissance. » Il disait « Non, non, quand même, 31 janvier, mais en 1933. » Donc c'est un concours un peu à la fois drôle et terrible. Mais c'est vrai que l'une des choses auxquelles on va réfléchir, je pense, dans un instant, c'est la manière dont 1932 permet de penser 1933 et la suite, jusqu'à 2022 et 2023, et les manières d'éviter que dans 10 ans, on se retrouve pour fêter un anniversaire de l'autre côté, non pas en se disant comment on a traversé les catastrophes, comme dit l'un de nos amis communs à beaucoup, mais comment on en a reproduit une. Hein. Qu'on espère qu'en 2033, on ne fêtera pas 1933 en se disant qu'on le répète, comme Michael Fessel, qui pense aussi ce débat sur le retour des années 30 dans nos années 20 et dans nos futures années 30. Donc voilà les trois casquettes au titre desquelles je suis profondément heureux de vous accueillir et d'écouter tous les exposés qui vont suivre. Cette soirée qui va être entrecoupée de lectures, et je dirais un mot aussi des figures dont il sera question, de l'accueil tout particulier fait à Jean Val. Autour de cette soirée, je voudrais dire un mot donc de l'année 1932 en commençant par le sens de la fondation de la revue Esprit elle-même. J'ai relu, pas suffisamment, mais quelques textes d'Emmanuel Mounier, bien entendu le manifeste, hein, « Refaire la Renaissance », qui ouvre la revue Esprit. Mais je voudrais juste dire un petit mot du coup de génie de Mounier d'assumer la notion d'esprit en 1932. Et de l'assumer d'une manière très particulière et très lucide sur le sens qu'elle recouvre. Dans ce texte, « Refaire la Renaissance », on le voit très précisément et très profondément. Pourquoi ? Parce que, au fond, dans mon hypothèse en tout cas, et je suis obligé là de parler à titre personnel, mais pour défendre les hypothèses que je soutiendrai, quand je continue de soutenir en histoire de la philosophie du XXe siècle en France, dans mon hypothèse, la génération des années 30 a rompu avec une génération de philosophes, celle de ses maîtres, Bergson, Brunswick, sur lesquels travaille aussi Anthony depuis la relation de Raymond Aron avec ses figures de ses maîtres, Bergson, Brunswick, Alain et quelques autres, des philosophes qui se revendiquaient de l'esprit, philosophie de l'esprit, l'esprit entendu comme... finalement, non pas une substance métaphysique préétablie, mais malgré tout un fondement pur, présent dans nos subjectivités et qui renvoie à une dimension métaphysique sur laquelle tout doit reposer. Qu'il s'agisse de l'acte immanent de la durée par opposition à l'espace chez Bergson, qu'il s'agisse du jugement pur, de la connaissance chez Brunswick ou chez Alain, l'esprit est une ressource quand même... pure, absolue, au nom de laquelle, à laquelle on doit pouvoir se référer, des mathématiques jusqu'à la politique. Et le signe de cela, c'était l'idée que le jugement, pour Alain par exemple, le jugement d'un esprit libre, formé par ce recours à ses fondements, domine l'histoire et les événements. Mars ou la guerre jugée, c'est la leçon de la Première Guerre mondiale pour cette génération qui avait été ouverte aussi en 1900 par l'introduction à la vie de l'esprit de Léon Brunschvicg. Or, la génération de Sartre, de Merleau-Ponty, de Canguilhem, autour duquel un colloque a lieu aujourd'hui même à l'École normale, de Simone Veil, donc de Mounier, de Lévinas, tous ceux dont il va être question aujourd'hui, de Jean Val, cette génération renonce à cette notion-là d'esprit, critique radicalement la notion d'esprit. Au nom d'une existence, bientôt ce qui va s'appeler existence, qui est jetée dans le monde sans fondement, même un esprit absolu, il n'y a pas d'acte pur, d'un jugement, d'un esprit auquel se référer, au nom d'une existence jetée dans le monde et dans l'histoire, et qui est une existence concrète, qui précède tout essence, comme dira l'autre, qui, d'une certaine façon, ne peut plus se penser comme extérieure au monde et à l'histoire dont elle fait partie, mais doit accepter leurs lois, même de manière critique. Et l'un des lieux où s'est jouée cette question, c'est la Seconde Guerre mondiale, précisément l'émergence du nazisme face au communisme, cette idée qu'un esprit qui jugerait ces événements sans s'y engager, sans s'y prendre des risques, serait disqualifié par la même, et c'est la rupture avec le pacifisme d'Alain, avec les philosophies de Bergson et de Brunschvicg. Par exemple, en 1932, dans Les chiens de garde de Paul Nizan, hein, les chiens de garde, ce sont précisément ces philosophes qui ont trahi l'humain au nom de l'esprit. J'insiste sur ce mot de trahison, que les philosophes de ce moment se jettent à la figure les uns aux autres et que Mounier reprend dans Refaire la Renaissance. La trahison des clercs de Julien Binda, c'était justement la défense de l'esprit absolu contre la compromission dans l'histoire. C'était la défense de la philosophie pure du moment précédent, en quelque sorte, face à ceux qui s'engagent dans l'action au nom d'un intérêt politique, partisan. Ils voient devenir la philosophie partisane. Une élève de l'école avait commencé une thèse ici sur Nizan, Sartre et Aron aussi, sur l'idée que la philosophie doit prendre parti pour cette génération-là. La philosophie n'est pas pure. C'est ce que pensait Binda, qui disait la trahison des clercs, c'est les clercs qui s'engagent, qui trahissent l'esprit au nom de l'action. En 32, Nizan dit exactement l'inverse. Le traître, c'est celui qui quitte l'action au nom de l'universel abstrait. Le traître, c'est celui qui ne combat pas les armes à la main, qui ne dit pas de quel camp il fait partie et qui, du même coup, est forcément du camp de l'oppression. Au fond, que fait Mounier en 1932 ? Il participe de cette rupture. Il renonce, il faudrait lire le texte de très près, j'en ai pas le temps, je veux juste ouvrir. Il participe de cette rupture, très radicalement. Il explique très clairement pourquoi il ne s'agit pas de revenir à un concept pur d'esprit, qui aurait les mains toujours propres, qui ne se salirait pas les mains, qui ne s'engagerait pas dans l'histoire. Et pourtant, il faut maintenir ce qu'il appelle la primauté du spirituel. Il y a deux concepts d'esprit, finalement. Celui qu'il critique, et peut-être qu'il a tort, hein, je ne reviendrai pas sur Bergson, Brunschvicg, Alain, c'est pas si pur que ça, leur esprit, il est divisé, il est dans l'histoire, surtout en 1932, mais il essaye d'inventer une dimension de l'esprit qui n'échappe pas aux engagements de l'histoire, qui ne se présente pas comme pur, mais qui se découvre avec ses principes, qui s'expose dans les combats, et qui surtout s'expose aussi à une discussion entre plusieurs sortes d'esprits, du moment qu'on considère que l'action ne peut se guider que sur des principes qui eux-mêmes doivent s'éprouver dans l'action, dans l'épaisseur de l'histoire, dans ce que Merleau-Ponty justement appellera voilà, cette épaisseur, le fait qu'on ne peut pas déduire une politique de la philosophie, il n'y a pas de politique qui se déduise d'un esprit, d'un principe pur de l'esprit, mais il y a une dimension intellectuel à sauvegarder absolument dans les combats pratiques. Ce texte est en fait un texte majeur qui permet de comprendre, de concilier les dimensions qui sont en train les continents qui sont en train de se séparer en 1932. Et je vais terminer là-dessus. 1932, il y a quelques livres, et c'est ça aussi l'idée de cette journée, de cette rencontre. C'est un moment, bon, c'est un peu généreux de la part d'Anne Lorraine, repris cette notion, mais surtout des livres et une revue. 1932, quelques grands livres majeurs. Le dernier grand livre, peut-être, des années 1900, « Arrivé trop tard, les deux sources de la morale et de la religion » d'Henri Bergson. Livre que personne ne comprend à l'époque, livre qu'on réduit à une dimension religieuse arrivée sur le tard, depuis une philosophie déjà terminée, livre qui en réalité la renouvelle complètement sous le signe de l'opposition du clos et de l'ouvert. Et avec Camille Riquet, qui n'a pas pu venir ce soir, on avait piloté dans la revue très récemment finalement un dossier sur la société ouverte, pour montrer justement que l'ouvert se gagne toujours contre le clos, que chez Bergson, l'esprit justement est divisé. Il y a l'esprit humain. Il y a trois figures de l'esprit, en fait, chez Bergson. Il y a pas seulement la technique et la philosophie, l'espace et la durée. Il y a bien pire que la science et la technique. Il y a l'esprit guerrier, la mentalité close de l'esprit humain qui est tourné vers la guerre. Il y a la déclaration d'émancipation de l'esprit par l'affirmation de l'ouverture. Et entre les deux, il y a l'esprit scientifique qui peut aller du côté de la guerre ou de la paix. Ce livre, Les deux sources de la morale et de la religion, n'est pas compris par les contemporains. Peut-être quand même par Mounier, bien sûr, éclairé par la figure compliquée de Jacques Chevalier, qui fait le lien entre Bergson et Mounier, qui se compromettra très gravement sous Vichy, et qui mériterait une étude très, très précise. Et Mounier, comme vous le savez, en 1933, demandera une lettre à Bergson pour la revue, que Bergson lui contre le nazisme, et Bergson la lui refusera en disant que c'est une des rares textes où il assume son judaïsme, en disant que qu'un philosophe juif s'engage contre le nazisme, cela paraîtrait trop évident, et donc il lui refuse cette lettre qui manquera pour toujours à la revue et à l'histoire, parce que Mounier avait eu le génie de comprendre qu'au contraire, une lettre de Bergson, ça avait un poids tout à fait particulier. Donc Mounier maintenait le lien avec cette génération. Et en même temps, il est du côté de cette génération nouvelle. Dans cette génération nouvelle, il y a des passeurs. Le principal passeur d'une génération à l'autre, c'est Jean Val. Jean Val est plus âgé que Sartre, Aron, Mounier, Lévinas, Jankélévitch, Simone Veil, cette génération Camus, toute cette génération extraordinaire qui traversera esprit jusque dans les dossiers qu'Olivier a... Toutes les générations successives de direction d'esprit ont maintenu ce débat intellectuel, d'histoire intellectuelle, sans lequel esprit ne peut pas vivre. Esprit ne peut être au présent et au futur qu'en méditant sur son passé. C'est évident. Hein. Il y a une dimension historique et vitale pour agir dans le contemporain. Jean Val est une figure très particulière. Et je voudrais saluer la présence de Jean Val dans cette soirée. C'est même par lui qu'on va commencer, grâce à Bernardo, qui vient de soutenir sa thèse avant-hier, en visio, avec le Brésil. C'est terminé à 22h30, heure locale d'ici. la présence de Barbara Val, l'une des trois filles de Jean Val. Jean Val est une figure absolument majeure, dont le livre « Vers le concret », paru en 1932, est à la fois un mot d'ordre, un problème philosophique et un talisman pour toute une génération, sans rompre avec la génération précédente. Il y a une rupture très radicale entre Bergson et Val, même si c'est un de ses lecteurs, un de ses exécuteurs testamentaires. Mais c'est une des figures majeures. Toutes les autres figures dont il va être question aujourd'hui sont plutôt du côté de la génération de l'existentialisme, mais justement avec laquelle l'esprit entretient une relation tendue. Je vais parvenir sur la relation entre personnalisme et existentialisme. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la persistance de la question de l'esprit à travers des moments philosophiques qui ont tous cherché à la critiquer, qu'il s'agisse de l'existence, qu'il s'agisse du structuralisme, qu'il s'agisse aussi aujourd'hui du vivant ou de la démocratie. Au fond, au sens de Mounier, qui est aussi en réalité le sens vivant du mot esprit chez Bergson et chez ses contemporains, l'esprit est toujours un esprit critique. C'est un esprit qui maintient simplement la discussion des principes comme n'étant pas fictive, pas disqualifiée par les questions pratiques, et jamais non plus suffisante. Et vraiment, la discussion sur les principes, l'ouverture d'esprit, si je peux dire, à condition qu'on puisse vraiment rapporter les enjeux pratiques à des positions de principe, c'est-à-dire à de la philosophie, c'est le sens le plus simple du mot philosophie, c'est une position articulée sur un principe, et tout le monde fait de la philosophie, hein, soyons d'accord, soyons clairs, et en le sachant, pas sans le savoir, eh bien c'est ce qu'on trouve dans la revue Esprit. Le comité de la revue Esprit a été pour moi à des moments cruciaux, un moment d'accompagnement de l'actualité. J'y ai tenu une chronique grâce à Olivier, Marc Olivier, et pendant un certain temps. Hein, déjà le titre, le moment du vivant, on anticipait déjà le moment présent. Aujourd'hui, dans ces questions sur le vivant, sur le climat, sur la démocratie, nous manquons d'un lieu où s'opposent les principes qui nous orientent. Mais il y a encore la revue Esprit. Donc une des raisons pour laquelle elle a traversé ces différents moments, elle n'a pas été datée. Les temps modernes, après Sartre, c'est plus pensable. Les critiques, après la génération de critiques, pas seulement Jean-Piel, bien sûr, mais voilà, Deleuze, Derrida, Serre, Lyotard, ça existe encore. Hein. Vous lisez sûrement, comme moi, certains numéros de la revue Critique, mais ça n'est pas là que à mon avis, je le dis un peu cruellement, c'est pas là que se jouent les débats contemporains articulés sur des principes. En revanche, la revue Esprit a toujours maintenu les débats parce qu'elle a maintenu ses différences, une très grande diversité, qui peut opposer des gens qui y croient à des gens qui n'y croient pas, mais qui disent pourquoi. Et qui disent pourquoi sur des questions très concrètes. Et ce que ça change. Ce que ça change aujourd'hui de dire si l'humain est un vivant, certes, mais en quel sens est-ce qu'il est exactement comme les autres vivants, qui disent pourquoi on défend la démocratie contre le totalitarisme. Et voilà, moi je serais plutôt du côté de Claude Lefort, qui dit que c'est parce que c'est un espace de division et non pas un espace de supposée réalisation magique des principes, un espace de discussion, un espace critique. Mais un critique dont le principe même de possibilité, on doit se battre pour le défendre, parce que... Voilà. Donc, c'est ce qui se joue en 1932. C'est vraiment une revue qui est datée, et extrêmement datée. Et c'est très important de la situer dans sa date de naissance. C'est ce qui va se passer ce soir. Mais c'est une revue dont... l'invention de sa date de naissance lui permet de dépasser sa réduction à sa date de naissance. Et ça n'est pas si courant, et je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Et les raisons profondes résident dans la diversité des œuvres dont il va être question aujourd'hui, qui partagent un certain nombre de problèmes, qui résistent à un certain nombre de dangers. Je suis très content que Jean-Claude parle de Lévinas. Toutes les figures qui vont être traitées sont très importantes. Elles ont été plus ou moins proches dans l'esprit. Finalement, il va être question de figures dont on parle peu dans l'esprit. Il y a des grandes figures tutélaires, bien sûr. Mounier, Ricoeur, et toutes celles et ceux que vous avez en tête. Il y a des figures dont on parle moins. Je pense qu'elles ont toutes eu quelque chose à voir avec l'esprit. Et c'est pas par hasard. Donc merci Anne-Lorraine, merci à toutes les figures d'esprit que je reconnais dans la salle du SAN de l'École normale, et où je suis très heureux de vous accueillir. Et merci d'avoir organisé cet événement qui sera suivi d'autres, à la fois du côté d'esprit et du côté de l'école. Puisqu'on va organiser notamment aussi quelque chose dans la même veine, en suivant aussi ce qui s'est passé ce matin sur Georges Canguilhem, sur l'année 1943, qui est un autre grand moment philosophique étonnant. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est 1932.
Alors, un grand merci à Frédéric Worms pour cette introduction généreuse qui rappelle toutes les bonnes raisons qu'on a de travailler encore à la revue Esprit, pour la revue Esprit. Merci évidemment à l'École normale supérieure et au Centre de philosophie française contemporaine de nous accueillir si généreusement ce soir et de nous permettre donc de revenir sur notre histoire, l'histoire de la revue Esprit, en si bonne compagnie. Et en compagnie si diverse et si ouverte, comme tu as déjà commencé à le dire, 1932, c'est une date importante pour nous, puisque c'est là que paraît le premier numéro de la revue Esprit, qui s'ouvre par ce texte manifeste d'Emmanuel Mounier. Mais c'est vraiment tout l'intérêt de cette idée qui nous était venue dans une rencontre avec Bernardo, qui nous parlait de sa thèse sur Jean Val. C'était bien de replacer le geste qui a été celui de Mounier et de ses proches, puisque Mounier n'était et pas seul, on aura l'occasion de le redire, et c'est très important et c'est constitutif. Et donc de replacer ce qui a été le geste de Mounier dans un moment philosophique, dans un paysage qui le dépasse, qui le déborde largement, et d'essayer de repenser cette fondation en la plaçant dans ce paysage plus vaste. Esprit a 90 ans, comme nous l'a rappelé Frédéric, et c'est vrai que cela nous met dans une position assez particulière avec toutes les personnes qui animent la rédaction aujourd'hui. à la fois d'assumer, de porter un héritage qui est formidable et qui est parfois intimidant, il faut le dire, d'assumer cet héritage, de lui faire honneur, mais de se sentir aussi assez libre pour le réinterpréter, pour le temps présent, de le réinscrire dans le moment présent, puisque c'est bien le geste de Mounier et de ses proches. Alors cette période de fondation dans les années 30, elle est évidemment très particulière et je pense qu'elle nous intéresse tous spontanément aujourd'hui pour toutes les raisons qu'a indiquées Frédéric. Elle a ceci de particulier qu'elle est bornée par la guerre, bien sûr, qui a d'ailleurs marqué une interruption pour Esprit. Mais il faut aussi essayer, je crois, de ne pas penser les années 30 comme étant complètement surdéterminées par cette guerre. Toute cette question du retour des années 30, assistons-nous à un retour des années 30 ? Elle est très présente dans le débat public et il me semble que c'est une question qu'il faut manier avec précaution, mais en cherchant aussi un juste milieu dans cette comparaison avec les années 30 de ni trop ni trop peu. Évidemment, on peut pas faire des comparaisons terme à terme, et je crois que c'était tout le sens du travail de Michael Fessel, auquel il a été fait référence dans ce livre Récidive, de dire bien sûr, devant la montée des autoritarismes aujourd'hui, il ne faut pas forcément craindre des défilés de chemises brunes dans les rues demain. Et la menace totalitaire, elle a sans doute un autre visage aujourd'hui. Elle aura sans doute un autre visage demain que celui qui a été celui de l'hitlérisme à partir de 1933. On peut imaginer, par exemple, que la technologie y jouera un rôle absolument fondamental, comme en témoigne l'évolution de la Chine de Xi Jinping. Donc l'histoire ne se répète pas, et c'est pas forcément ça qu'il faut craindre aujourd'hui, ou ce devant quoi il faut être vigilant. Mais en revanche, ce dont les années 30 ont été la manifestation, et là je reprends vraiment les termes de Michael dans Récidive, sur cette question-là, on peut s'interroger, c'est-à-dire que, et même il faut, je crois, s'interroger sur ce qui, dans nos sociétés contemporaines, évoque bien des formes de pré-fascisme, selon le terme qui est utilisé dans un numéro absolument majeur de la revue qui paraît en décembre 1938, et donc notamment sous la plume de Mounier et sous celle de Jacques Madaule. Donc j'en profite pour vous présenter les excuses de Michael Fessel, qui avait prévu d'être là ce soir, mais qui ne pourra finalement pas être avec nous, et dont ce livre portait sur l'année 38. Mais c'est l'occasion de dire aussi que voilà, cette chronologie, elle est un peu à tiroir, 32 qui porte 33, qui porte 34, et je crois que c'est important aussi de voir quelle a été l'évolution de la revue au cours des années 30, et c'est ce qu'on pourra faire grâce à nos différents intervenants, et notamment Olivier Mongin, qui parlera d'un texte très important de Paul-Louis Landsberg, enfin de la figure de Paul-Louis Landsberg, et d'un texte important qui était paru en 37. Mais pour nous, faire retour sur notre fondation, c'est évidemment aussi revenir sur la figure d'Emmanuel Mounier. Et là encore, je crois que les générations qui nous ont précédés nous ont ouvert la voie et facilité la tâche en appelant à ce renouvellement. Frédéric nous rappelle que la revue a traversé des moments, ce qui veut dire forcément qu'elle a changé, qu'elle s'est infléchie, qu'elle a réinterprété des choses, qu'elle s'est aperçu qu'elle s'était trompée, éventuellement, et que donc elle a, pour traverser le siècle, elle a changé. Il a bien fallu qu'elle change. Et notamment, dans ce rapport à la figure d'Emmanuel Mounier, Il y a eu toute cette période importante dans les années 80 de réévaluation du personnalisme, dans lequel donc, les générations qui nous ont précédés et auxquelles on voudrait faire honneur aujourd'hui rappellent que le personnalisme communautaire de Mounier, pour intéressant qu'il soit, ne pouvait pas constituer le seul programme de travail de la revue Esprit. Donc une fois ceci établi, une fois libéré peut-être de cette figure tutélaire par nos générations précédentes, on peut y revenir en fait, et on peut y revenir avec une forme de candeur. Et je crois que c'est le cas pour la génération qui porte la revue aujourd'hui. Et quand on relit un texte comme « Refaire la Renaissance », aujourd'hui donc, en 2022-23, puisqu'on a dit qu'on aurait une compréhension un peu souple de la chronologie ce soir. Pour moi, en tout cas, quand on revient à un texte comme « Refaire la Renaissance », on a des impressions assez contrastées. C'est-à-dire que le texte est très daté, comme Frédéric Worms vient de nous le rappeler. C'est un texte d'une autre époque, il n'y a pas de question, par son style, par sa longueur d'abord.
Tu l'aurais coupé.
Ah ben oui, il y avait des textes qui faisaient 40 pages, facile, voilà. Mais aussi par une forme d'emphase dans le style, des accents mystiques, un appel constant à la révolution spirituelle, dont la perspective, si elle peut continuer de nous sembler tout à fait souhaitable aujourd'hui, ne s'est pas en tout cas précisée depuis. Mais le texte, je crois, aussi frappe par sa grande actualité. Et on retrouve notre fameuse question des années 30 qui nous regarde, même si elle ne se répète pas forcément. Et moi, je vois dans ce texte une très grande actualité, notamment par cet appel à la révolte. On va lire tout à l'heure des extraits de textes. C'est toujours difficile de piocher dans Refaire la Renaissance. On a choisi un extrait dans lequel vous entendrez la radicalité de cet appel à la rupture et même à la révolution. Donc la révolte contre un ordre inégalitaire et injuste. Et aussi ce qui revient tout le temps dans le texte, ce qu'Antoine Garapon chez nous appelle une triple fidélité. Une fidélité à la recherche de la vérité, qui reste comme une marque très forte, et un thème sur lequel on est beaucoup revenu récemment dans la revue, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de toutes les tentatives de révisionnisme historique auxquelles on assiste, mais aussi une fidélité à l'homme, et tu en as parlé en parlant de Paul Nizan, et une fidélité aux politiques. Parce que toute cette période de fondation pour la revue Esprit, des années 30, on peut la décrire aussi comme une période où la revue cherche, je crois, le juste rapport à la politique. La philosophie cherche le temps historique, elle cherche la question de la responsabilité politique, et elle le fait tant dans les sujets dont elle choisit de traiter, que dans une certaine méthode dont on considère qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui un des fils conducteurs dans l'histoire d'Esprit. C'est une façon de travailler. Cette façon de travailler, c'est l'intelligence collective, c'est le pluralisme, c'est le débat, possiblement le désaccord. C'est le fait toujours d'être plusieurs. C'est le fait de travailler et d'écrire à plusieurs voix, selon la jolie formule des fondateurs, qu'on utilise encore dans la revue aujourd'hui pour la rubrique qui ouvre chacun des numéros. Donc c'est bien dans des discussions avec ses amis intellectuels, ses amis spirituels, c'est dans la discussion avec Isard, Déléage, Gallet, avec lesquels Mounier fonde la revue, mais aussi dans les discussions et les désaccords avec Jacques Maritain, qui voulait fonder une revue catholique, ce que Mounier ne voulait sous aucun prétexte, ou dans son amitié un peu plus tard avec Paul-Louis Landsberg, dont il sera question, donc, que Mounier progresse vers ce qui est devenu sa pensée de l'événement. Donc ce rapport à l'événement, Mounier disait « l'événement sera notre maître intérieur », c'est quelque chose qu'il a trouvé et qu'il a mis au point dans ses discussions collectives. Et c'est pourquoi je suis particulièrement heureuse ce soir qu'on puisse vous proposer donc de regarder cette année 1932 avec une diversité de voix et de regard, qu'on puisse le faire dans ce format à plusieurs voix, qui est aussi un format multigénérationnel. C'est très important et très précieux pour moi ce soir que Bernardo Tavares dos Santos, donc, qui va nous parler de Jean Val, et Anthony Dequil, qui va nous parler de cette génération et du rapport qu'elle entretient à ses aînés, puissent vous apporter leur éclairage aux côtés de Jean-Claude Monod, qui est un membre du comité, membre fidèle du comité de rédaction d'Esprit, voilà, d'Olivier Mongin, qui a été le directeur de la revue pendant 30 ans, et de Perrine Simon-Naoum, qui nous parlera de Raymond Aron. Donc c'était bien le sens de cette soirée, qu'elle puisse avoir lieu à plusieurs voix, et donc je m'en réjouis, je réjouis de voir aussi que dans le public, nous avons ce mélange des générations qui est très précieux pour nous. Et pour continuer de vous faire entendre plusieurs voix, on a donc imaginé qu'il y aurait quelques lectures de textes ce soir. Donc je vous propose qu'on commence maintenant par ces trois premières lectures de textes. On va lire trois extraits, et puis pendant ce temps-là, peut-être que nos intervenants peuvent venir s'installer. On aura une première table ronde, vous pourrez poser des questions. On lira une deuxième série d'extraits, puis une deuxième table ronde, et vous pourrez poser des questions. Et donc, pendant ce temps, on va pouvoir s'installer pour vous lire les trois premiers textes que je vous annonçais. Donc, un petit extrait de « Refaire la Renaissance », ce fameux texte manifeste d'Emmanuel Mounier, qui ouvre le premier numéro de la revue Esprit en 1932. Puis on lira un poème de Jean Val, qui a été publié dans la revue Esprit en 1933. Et enfin, un court extrait d'un texte de Lévinas, qui est paru d'abord en lituanien, je crois, avant d'être traduit en français. J'ai trouvé cette information. Jean-Claude nous dira si elle est exacte.